Audiolib présente Nuit sombre et sacrée de Michael Connelly. Traduit de l'anglais par Robert Bepa. Lu par Jacques Chausspied. Pour Mitzi Roberts, qui m'inspira le personnage de René. Ballard. Chapitre 1. Les officiers de la patrouille avaient laissé la porte d'entrée ouverte. Ils croyaient lui avoir rendu service en aérant. Mais cela constituait une violation du protocole de conservation des éléments de preuve de la scène de crime. Des insectes auraient pu y aller et venir et de l'ADN de contact être altéré par une brise traversant la maison. Les odeurs étant de la matière particulière, aérer une scène de crime, c'était en perdre des éléments. Mais les officiers de la patrouille ne savaient pas tout ça. Le rapport que Ballard avait reçu du lieutenant de veille disait que le corps se trouvait depuis 2 ou 3 jours dans une bâtisse fermée avec climatisation arrêtée. À le citer, l'endroit puait aussi fort qu'un plein sac de moufettes. Là, devant elle, 2 véhicules de patrouille stationnaient le long du trottoir. 3 hommes en bleu se tenaient debout à côté et l'attendaient. Ballard ne pensait pas vraiment qu'il serait resté à l'intérieur avec le corps. 100 mètres au-dessus, dans les airs, un hélico décrivait des cercles, projecteurs braqués sur la rue. On aurait dit une laisse de lumière, retenant l'appareil pour l'empêcher de disparaître au loin. Ballard coupa le moteur, mais resta un instant assise dans son véhicule de fonction. Elle s'était garée devant un espace entre 2 maisons et regarda la ville qui se répandait en un vaste tapis scintillant sous ses yeux. Peu de gens se rendent compte que Hollywood Boulevard se perd haut dans les montagnes, et étroit et resserré dessert alors un quartier strictement résidentiel, bien loin du mélange de clinquants et de crasses de la Mecque touristique qu'il est tout en bas, où les visiteurs posent avec des clodos en costume de super-héros et sur des étoiles gravées dans le trottoir. Dans ces hauteurs, tout n'est qu'argent et pouvoir. Et elle savait qu'un meurtre dans ces collines faisait toujours sortir les grands pontes. Elle ne faisait, elle, que du babysitting et ne garderait cette affaire que peu de temps. Celle-ci terminerait aux homicides du West Bureau, voire à la division des vols et homicides du centre-ville, tout dépendant de l'identité de la victime et de son statut social. Elle se détourna de la vue et alluma le plafonnier pour prendre son carnet. Elle revenait de sa première mission, un cambriolage ordinaire dans une maison en retrait de Melrose Avenue, et y avait ses notes pour le rapport qu'elle rédigerait une fois de retour à la division de Hollywood. Elle l'ouvrit à une nouvelle page et y porta l'heure, 1h47 du matin, et l'adresse. Elle ajouta aussi une ligne sur les conditions météo. La nuit était claire et douce. Puis elle éteignit le plafonnier, descendit de voiture en laissant ses clignotants bleus allumés et ouvrit le coffre pour y prendre son kit de scène de crime. Lundi matin, et c'était son premier service d'une semaine où elle travaillerait seule. Elle savait qu'elle allait devoir garder son tailleur une nuit, peut-être même 2. Cela voulait dire on ne l'abîme pas avec les puanteurs de la décomposition. Debout devant le coffre, elle ôta sa veste, la plia soigneusement et la posa dans un des cartons à éléments de preuve. Elle sortit ensuite sa combinaison de scène de crime de son sac en plastique et s'en couvrit les chaussures, le pantalon et le chemisier. Elle en remonta la